le Salon de la copropriété, de l'habitat durable et connecté, les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Axéo, GERCOP, Drieux-Combalusier, DK Elevator et l'ANGC sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, toujours en direct de la Porte de Versailles. Nous vous faisons vivre le Salon de la copro. Voilà, on vous partage tout et je suis avec Olivier Safard, président de l'UNIS Île-de-France Grand Paris. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Et vous êtes accompagné par les deux présidents délégués de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, Benjamin Darmouni, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Et François-Emmanuel Borel, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Ravi de vous recevoir, messieurs. Alors vous avez un très beau stand.
Merci.
L'UNIS a un très beau stand sur le salon. Alors un petit point peut-être, on est aux trois quarts du salon, ça se termine ce soir. Un petit mot pour résumer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous êtes content de cet événement?
Alors, premier résumé, d'abord très content du visitorat. Beaucoup de monde hier, un peu beaucoup de monde ce matin. J'espère que cet après-midi, on aura aussi un peu de monde. Mais en tout cas, très niveau important de nombre de personnes, mais aussi de qualité des visiteurs. Et ça, c'est un point important. Et on le voit à travers les conférences, les formations et toutes les questions qui nous sont posées. On est intervenu sur une dizaine de conférences et formations et on se rend compte que la qualité des personnes qui sont là pour nous écouter et qui nous posent des questions ne sont pas les mêmes que les années précédentes. Et ça, je tiens à les féliciter et à les remercier parce que c'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir des gens qui posent des vraies questions, des bonnes questions, qui ont leurs difficultés dans leur copropriété et qui viennent effectivement nous poser des questions plus générales parce qu'il faut parler bien évidemment de tous les immeubles. Mais ça, c'est un point très positif.
Et c'est vrai que des visiteurs de qualité, c'est ce qui ressort. Hein. On s'est baladé un petit peu sur les stands et c'est ce que tous les exposants nous ont dit en tout cas. Benjamin, peut-être un petit mot aussi sur le salon aux trois quarts.
Oui, alors pourquoi autant d'intérêt pour ce salon? C'est parce qu'on a beaucoup de sujets en ce moment. Et c'est vrai que la rénovation énergétique a pris une grande part dans ce salon puisque les copropriétaires sont toujours inquiets. Ne savent pas comment ils vont atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Et donc, on est là pour répondre à leurs questions et pour essayer de les guider, puisque nous, on est à fond dedans et on a justement, beaucoup d'outils pour les guider et pour répondre à leurs interrogations. Et puis, au niveau du succès du salon d'une manière générale, franchement, c'est un peu un renouveau parce que, encore une fois, on a des échanges de qualité. On a beaucoup de sociétés qui sont venues dans le salon. Et donc, on peut échanger entre professionnels et c'est très agréable.
François-Emmanuel, pareil, même question.
En fait, on sort du Covid, hein. Ouais. Je vais quand même se le rappeler. Donc, tous ces événements qui étaient un petit peu sous les teignoirs pendant quelques années, maintenant, mais retrouvent quand même leur pleine capacité. Et en effet, il y a une forte densité réglementaire et textuelle. De ce fait-là, on doit accompagner les copropriétaires. C'est l'objet de notre syndicat. On accompagne les confrères également. Et on met à leur disposition tous ces sujets, toutes ces thématiques. L'UNIS participe au comité pédagogique du Salon de la copropriété. On a mis en avant beaucoup de sujets qui sont quand même très intéressants. Et je pense que c'est normal que ça suscite de la participation et que les gens viennent en nombre.
Un petit mot peut-être sur les conférences, Olivier Safard. Alors, oui. Quels étaient les thèmes des conférences qui ont été tant appréciées par les visiteurs?
Les conférences où on a eu beaucoup de monde, pour ne pas dire autre chose, rénovation énergétique d'un côté, ça c'est très clair. Il y a une appréhension très claire de tous nos copropriétaires.
Il y a un flou
sur
encore.
Comment ça marche, que c'est, pourquoi, à quoi ça sert. Votre DPE, c'est le même que l'individuel, c'est le collectif, il n'y en a pas. Votre PPT,
sur quoi il est basé?
Voilà, votre plan pluriannuel de travaux, c'est quoi, on fait comment? Comment on le vote, comment on doit faire? Ça, c'est les premières questions. Deuxième question, là où on a eu beaucoup de monde, c'est sur la partie comptabilité. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, quand on a des nouveaux textes, il faut les appliquer en règles comptables. Et on se retrouve ce matin sur l'application des nouvelles règles comptables, sur comment on comptabilise le fonds de travaux, comment on l'utilise, comment il va être modifié une fois qu'on aura voté le plan pluriannuel de travaux. Des questions, effectivement, dans tous les sens. Et c'est logique. Et ensuite, effectivement, beaucoup de questions sur le rôle du syndic, sur le contrat de syndic, sur le rôle d'accompagnateur du syndic, sur le rôle de suivi et d'aide, notamment avec des questions d'énergie et de coûts importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les copropriétaires viennent nous voir en disant « Mais comment on fait ?» On a compris que le gaz a augmenté, l'électricité a augmenté, mais tout va bien, si j'ai bien compris, c'est que 15% d'augmentation, on est coincé et tout va bien. Pas du tout. Et c'est bien la difficulté aujourd'hui, c'est que pour le gaz a augmenté de façon très importante. On a un bouclier tarifaire qui a été prévu par le gouvernement, on le remercie. Notre ministre,
mais qui n'est toujours pas là.
Il est là, le bouclier tarifaire.
Oui, il y a des délais de 6-7 mois.
Voilà, la seule difficulté, c'est qu'on vous dit il y a le bouclier, ça marche. La seule chose, c'est que l'argent, on le reçoit une fois qu'on a payé les factures 6 mois après. Et ça, c'est le décalage que les Cobretins ne comprennent pas. Parce que si notre ministre l'explique clairement, en tout cas, on remercie Olivier Klein d'être venu sur le salon, d'avoir passé plus d'une heure et demie avec nous et avoir tous les stands et les clients, nos clients, qui sont les copropriétaires, mais aussi tous les fournisseurs et toutes les entreprises. C'est un très bon point, un point positif. En revanche, quand on a notre première ministre qui indique que tout va bien, que tout est bloqué, il n'y aura qu'une augmentation de 15% et vous aurez à payer que le bouclier tarifaire, c'est faux. Il faut le rappeler. On paye les factures au prix aujourd'hui. Si c'est du gaz, on est entre 150 et 180 euros le mégawatt. Et on reçoit l'argent du différentiel du bouclier tarifaire qui est aujourd'hui à 65 euros que 6 mois après. Donc à un moment, il faut de l'argent.
Donc il n'y a plus d'argent dans les trésoreries des copropriétaires.
Et en trésorerie, il n'y en a plus. Ouais. Et les copropriétaires ne comprennent pas. Pourquoi ? Parce que quand on leur a demandé de réajuster les budgets, d'augmenter les budgets, et on dit OK, on augmente le budget, mais on s'arrête au montant du bouclier tarifaire. Mm. Je ne demande pas plus aux copropriétaires. Et ça, on a beaucoup d'immeubles en difficulté pour ça.
Si vous rejoignez les propos d'Olivier, Benjamin et François et Emmanuel. Merci.
Alors oui, évidemment, on les rejoint. Moi, je suis très inquiet parce que le bouclier, ça ne va pas durer.
Ah ben oui.
À un moment, le Père Noël, moi, on m'a toujours appris qu'il n'existait pas. Donc, bon, sauf à ce que ça change.
Vous ne me l'avez jamais dit, moi.
Ouais, c'est marrant, ouais. Vous voyez, comme quoi, il y en a encore qui rêvent, et ça, c'est bien. Pour autant, le principe, c'est que là, on nous dit bouclier, mais jusqu'à quand ? Enfin, moi, le gouvernement, il a trouvé une solution. C'est aujourd'hui de mettre énormément d'argent dans l'économie. L'inflation, on dit qu'elle va s'arrêter, mais personne n'en a la preuve.
On parle d'une récession, les économistes ne sont pas d'accord.
Et pour le coup, moi, je n'y crois pas. Ouais. Et donc, effectivement, à un moment, il faudra bien que les copropriétaires comprennent qu'il faudra payer le vrai prix du gaz. Et aujourd'hui, le vrai prix du gaz, c'est du x3, du x4, du x5.
Et donc, ça, j'avais jusqu'à x10.
Non, ça, c'est en électricité.
Oui, mais gaz, apparemment, ça
arrive. Que...
Oui, c'est vrai que ça dépend d'où on part.
Donc, on n'est pas à x10. En moyenne.
Pas à x10, c'est quoi ? C'est x6, c'est l'électricité vraiment qui montera jusqu'à moins x9, x10 ?
Alors, je vais vous prendre un exemple simple. On a une copropriété, je paye actuellement l'électricité en heure pleine à 88 euros le mégawatt, en heure creuse à 65 euros. On doit rediscuter pour début janvier sur les tarifs. On est entre 600 et 800 euros le mégawatt, heure creuse, heure pleine. Donc ça vous donne une idée, on est x9.
Le fioul est aussi une problématique, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas de bouclier tarifaire sur le fioul.
Il n'y en a pas.
Et là, moi, je suis très inquiet, parce qu'on sait clairement qu'on va avoir des copropriétés en difficulté. Alors là, je vais parler en qualité de président de CALISR, qui est l'association des syndics de redressement et de prévention. Et on se rend compte globalement qu'on va avoir une augmentation importante des impayés, parce qu'on va devoir demander plus d'argent aux copropriétaires. Mmh. Et ce n'est pas qu'ils ne vont pas vouloir payer, c'est qu'à un moment, ils ne vont pas pouvoir payer. Mmh. Et ça, c'est une vraie difficulté. Ce n'est pas prévu dans leur budget. Les budgets de charges, quand ils ont acheté les appartements, ils connaissaient à peu près les montants. Ils savent que ça augmente peut-être certaines années de 3 ou de 5%, mais pas que je vais multiplier par 10 le budget de chauffage.
En fait, moi, j'ai l'impression qu'on ne parle pas du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est comment la France, aujourd'hui, doit devenir autosuffisante énergétiquement.
Ah bah, c'est très simple, il y a une solution.
Et pour moi, on n'évoque pas le vrai sujet. Parce que si on ne le fait pas, on sera toujours dépendant d'un x4, x5, x6, en fonction de quoi ?
En tout cas, attendant, on est toujours dépendant. Juste, Olivier, quand vous disiez tout à l'heure le prix de l'électricité, voilà, négocier, est-ce que, parce qu'Emmanuel Wargon, donc l'ancienne ministre du Logement, qui est désormais à la tête de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, avait dit il y a quelques semaines de justement discuter avec les fournisseurs d'énergie, de regarder les contrats, d'essayer de discuter avec eux. Est-ce que c'est ce que vous faites ?
Oui, c'est ce qu'on fait. Le seul problème, c'est
qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a discuté avec eux ? Est-ce qu'on peut négocier le prix ?
Alors, vous avez deux types de contrats. Vous avez les contrats qu'on appelait les compteurs bleus, c'est-à-dire les contrats des particuliers ou dans les syndicats de copropriété de votre ascenseur et de l'électricité des parties communes. Là, l'information est très claire. C'est une augmentation de 15% le 1er février. Donc, on part d'un prix qui est déjà, la plupart du temps, fixe, le TRV, qui augmentera de 15%. On a de nombreux confrères qui avaient emmené leurs syndicats de copropriété chez des fournisseurs alternatifs. les prix des fournisseurs alternatifs se sont envolés.
Oui.
Ils vont tous revenir chez EDF.
Ben bien sûr.
Soyons réalistes. Excusez-moi, on ne va pas faire de la pub pour eux. Mais pourquoi ? Parce que ce sont les seuls à avoir le TRV. Donc vous allez vous retrouver avec l'ancien tarif régulé, le bloqué, mais plus 15% au 1er février. Positif. Pourquoi ? Parce qu'au moins, on sait où va l'augmentation. Les autres s'envolent complètement. Et ça, vous êtes en compteur vert ou en compteur jaune, c'est-à-dire des grosses consommations, et là, vous n'avez plus de protection. Vous n'avez pas de bouclier tarifaire. Et vous êtes coincé parce que vous avez un contrat la plupart du temps d'1 an, 2 ans, 3 ans. Quand il vient à échéance, il faut le renégocier. Et la renégociation, elle est au tarif actuel.
Mmh. Mais l'impact sera sur la chaîne du bâtiment. Parce que toutes les dépenses contraintes, les gens les assumeront, enfin, j'espère. Mais toutes les dépenses d'agrément ou d'équipement complémentaire, ils s'en passeront.
Comme quoi, par exemple ?
Ben, je vois tout autour de vous, tout simplement, tous les prestataires qui sont venus avec des offres. Je ne sais pas, ça peut être aussi bien de
la cabine
d'ascenseur, peut-être pas la recharge électrique, parce que justement,
besoin,
ça en
ouais.
fait partie. Mais tout ce qui est dispositif de sécurité, d'entretien, tout ça, en fait, les gens, je pense, vont faire l'impasse. Les métiers du bâtiment
plus, en fait,
ouais. vont commencer à avoir une problématique d'entretien. Je vois bien déjà d'où, dans nos sociétés, on voit bien, enfin, parmi nos clients, on voit bien qu'ils demandent beaucoup moins de travaux qui seraient oui. De l'embellissement, un ravalement pour même de quelque chose qui serait nécessaire. Mais en fait, ils vont retarder toutes ces dépenses-là, c'est évident. Et quelques partenaires du bâtiment le disent déjà. Mmh. Sachant qu'à Paris, on a aussi la problématique des Jeux Olympiques, qui font que tous les travaux vont être stoppés. On n'aura pas le droit de mettre d'échafaudage, on n'aura pas le droit de mettre d'installation sur la voie publique pendant à peu près 8 mois.
Donc, ce qui veut dire, c'est 8 mois c'est...
Bah, en Jeux fait, c'est Olympiques de mars à octobre,
et paralympiques.
De toute façon, c'est...
Et c'est en décalage, ouais.
Bah oui.
Et c'est en amont et c'est en aval, parce qu'en fait, vous ne faites pas de travaux pendant l'hiver.
Bah oui.
Donc en fait, vous avez une année qui va être une année blanche à nouveau.
Ça va impacter le secteur fortement, bien sûr.
C'est sérieux.
Et alors, on parle des prix de l'énergie. Vous avez évoqué tout à l'heure la rénovation énergétique. Un
oui.
autre coût pour les copropriétés qui tombe un peu au pire moment. En termes de timing,
je vais répondre. Si on n'avait pas eu ces problèmes de crise de l'énergie, ça serait parfait. On avancerait dans les sens.
Mais là,
le terme de la loi climat et résilience, en l'organisant avec un plan pluriannuel de travaux sur 10 ans, c'était plutôt positif,
bien
c'était
sûr.
Dans le bon sens. Ça rassurait les copropriétaires parce qu'on leur donnait une méthodologie. On commence par faire notre diagnostic technique global, notre DPE, l'analyse du bâti, ce que l'on doit faire. On doit proposer un projet de plan pluriannuel de travaux, l'Assemblée générale doit le voter, et derrière, on est engagé pour les travaux sur 10 ans. C'était raisonnable, ça avait rassuré tout le monde. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas tenir le paiement des charges pour l'entretien de l'immeuble et l'énergie avec les travaux de rénovation énergétique. On a certaines copropriétés où le point était à l'ordre du jour de l'Assemblée générale au mois de mai, et bien l'Assemblée générale a rejeté, et de façon, on va dire, un peu agressive et difficile, les travaux de rénovation énergétique en disant « mais on ne peut pas payer ces factures de gaz déjà qui ont augmenté très fortement et payer en même temps la rénovation énergétique. On est incapable de le faire. » Et ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on prépare le
Bien
projet.
Sûr.
Ça fait 3 ou 4 ans qu'on organise. On a des aides, on a des subventions, on a les crédits, tout était monté. Le résultat a été négatif à la fin en disant « on verra après ».
Pourtant, c'est complètement contradictoire parce que pour faire des économies d'énergie, il faut rénover énergétiquement
oui.
les bâtiments. Donc, si vous voulez, on est
a les moyens de faire des économies comme
Et qu'est-ce que vous lui dites au ministre délégué à la ville et au logement, à Olivier Klein ? Est-ce que vous faites remonter ça, j'imagine ? Est-ce
oui.
qu'il en a conscience ? Parce que, bon, le fameux DPE avec le calendrier échelonné, il y tient, par exemple. Il tient à cette fameuse loi climat résilience qui est très bonne. Hein. Comme vous l'avez dit, s'il n'y avait pas eu la crise énergétique, ce serait parfait. C'est vrai qu'on doit tous s'y mettre, mais là, est-ce qu'il a conscience, le ministre, alors, que les copropriétés sont bloquées ?
On a des difficultés, on a des problèmes
Elles
de paiement et d'impayé.
Bloquées.
La réponse est oui. Il en est conscient. La seule difficulté, c'est que derrière le mécanisme de bouclier tarifaire, c'est Bercy qui paye.
Ouais.
Et à certains moments, il n'y a plus de trésor, il n'y a plus d'argent dans le gouvernement non plus.
Ouais.
On arrive à un moment où on aura un bouclier. Combien de temps ? On ne sait pas. À quel montant pour 2023 ? Normalement, on va dire avoir aussi un bouclier tarifaire gaz pour 2023. Il a été confirmé par les différents ministres, mais je ne sais pas à quel montant. Et je ne sais pas combien on aura et à quelle vitesse. Une chose est très claire, c'est que les versements qu'on devait avoir avant Noël, on nous annonce qu'on les aura probablement au mois de mars.
Donc
on a déjà un décalage complémentaire. Alors, je n'ai pas le droit de le dire officiellement, mais il faut le dire, l'argent ne va pas rentrer tout de suite et c'est vrai qu'on aura ces difficultés. Il en est parfaitement conscient, on lui a soulevé le point, je lui ai demandé l'autorisation de permettre des appels de fonds supplémentaires, il le comprend. La seule chose, c'est qu'à un moment, je lui ai dit, on a un fonds de travaux aujourd'hui pour financer les travaux de la loi Allure, ce qui était créé en 2017, et d'utiliser cette trésorerie disponible pour payer les factures en attendant que l'État nous rembourse le bouclier tarifaire. Au départ, la réponse était négative. Hier, visiblement, j'ai eu une réponse différente.
En disant,
il faut peut-être l'envisager ou le voir comment on peut le mettre en place. Mais il s'agira uniquement que d'une utilisation temporaire du fonds de travaux en attente du remboursement du bouclier tarifaire. Pourquoi pas ? Mais à un moment, il va falloir trouver des solutions en trésorerie. Sinon, on va avoir de nombreuses copropriétés qui vont basculer de copropriétés fragiles à copropriétés en difficulté. Et ça, je ne le souhaite pas aujourd'hui, parce que ces copropriétés ne sont pas en difficulté. Elles ont juste des problèmes de paiement de trésorerie. Et ça, c'est un deuxième point. J'ai demandé aux banques s'il était possible d'avoir des avances spécifiques ou des découverts sur les comptes des syndicats des copropriétaires. La réponse a été... Nous serions d'accord pour vous le facturer, mais nous n'avons pas le droit. Revoyez avec Bercy ce qu'on peut faire.
Non.
C'est parce que les banques vous ont répondu.
On n'est pas passé en compte séparé pour aujourd'hui avoir l'autorisation de découvert.
Voilà, donc aujourd'hui, on est coincé. On sait qu'on va vers une situation difficile. Une crise, elle est déjà là. La seule chose, c'est qu'à un moment, elle intervient après. C'est-à-dire qu'au moment où vous présentez vos comptes, il n'y a pas l'argent. Au moment où vous allez faire la régularisation des charges auprès des locataires, ils vont avoir un deuxième choc, eux aussi. Aujourd'hui, ce sont les copropriétaires qui ont le choc. Les locataires auront choc quand ils auront leur régularisation de charges.
Et ça va faire
un vrai choc.
Parce que les locataires payent une partie des charges.
Ils payent les consommations.
Exactement.
Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'aussi, il y a un mécanisme qui consiste à ce que les copropriétaires disent « J'ai mis en vente mon appartement et je payerai mon solde de charge le jour de ma vente. » Sauf que je vous rappelle aujourd'hui qu'on est rentré dans une crise de la transaction, qu'aujourd'hui, de 1 200 000 transactions, 1 180 000, on va passer à 700 000 transactions. Et que tous ces clients qui vendaient facilement et qui remboursaient toutes les charges qu'ils devaient à la copropriété, aujourd'hui, ont une difficulté, c'est qu'ils ne vendent pas leur appartement.
C'est vrai qu'il y a un tassement là depuis octobre.
Il faut être clair sur ce sujet aussi. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gros comptes débiteurs dans nos copropriétés, des gens qui envisagent de vendre et qui disent « bon, je rembourserai », mais qui ne remboursent pas. Et donc, ça va plonger aussi les copropriétés financièrement dans une autre difficulté qu'on ne voit pas forcément au départ.
Alors, vous avez un double effet sur les ventes. Un effet, d'abord, des appartements qui sont en F et G.
Mais les propriétaires
se précipitent pour certains vendre, vendre parce qu'ils se rendent compte que les travaux qu'ils ont à faire pour le ressortir de ces étiquettes violentes pour eux, c'est trop cher. Exemple, vous avez un studio, si votre quote-part pour remettre en état le studio pour partir d'une étiquette, c'est 30 ou 35 000 euros et que votre studio fait 15 mètres ou 18 mètres carrés, les propriétaires ne vont pas vouloir investir ces montants-là. Donc ils vont dire « je vends ». Et là, vous avez sur le marché certains de ces types d'appartements qui arrivent, sauf que bien évidemment, il y a une décote. Il ne va pas le même prix. Donc ça fait baisser le marché.
Alors une décote, c'était dans la théorie, mais sur le terrain, apparemment, ce n'est pas si facile que ça d'avoir une décote.
Alors, je vais répondre. Ça, regarder que Paris. Si vous regardez toutes les régions en France, ce n'est pas le cas.
Oui.
L'analyse aujourd'hui que l'on a, on a sur toute la France, et on se rend compte
que... Pas dans les zones tendues, en tout cas.
Voilà. Dans certaines zones, la décote est très rapide.
Mais beaucoup c'est 20-25%. Plus sur les maisons les appartements.
Mais les maisons individuelles, la rénovation énergétique des maisons individuelles, rappelez-vous...
C'est encore plus cher, ce n'est pas 25 000 euros, là. Pour certains, 80 000.
Et encore plus cher, parce que c'est des maisons qui ont été achetées peut-être moins cher que le prix qu'il y a de travaux en rénovation énergétique à faire dans
Emmanuel
le
Vargon, d'ailleurs, Emmanuel Vargon a pris position sur le fait de la maison individuelle qui a un non-sens écologique, pour ainsi dire.
Exactement.
Elle habite une maison individuelle.
Sauf qu'on parle de 4 millions.
C'est excusé, je crois, pour ses propos, non ?
Ce qu'on a vu aussi, c'est de la part des locataires. Les locataires, puisque vous le disiez, c'est eux qui supportent une grande partie de la dépense. On voit des locataires qui sont même sélectifs sur le type de chauffage qu'il y a dans la copropriété, si elle est assumée par la copropriété, préalablement. Ou même en individuel, c'est-à-dire que louer un appartement à Paris avec du chauffage au gaz, maintenant relève d'un exploit. Parce qu'en fait, le locataire veut passer à l'électrique, contrairement à ce qu'on a vécu pendant très longtemps. Et on a ce phénomène.
Alors que c'était l'inverse.
C'était
l'inverse. Et là, aujourd'hui, il dit « je veux contrôler ma consommation ».
Exactement, donc pas de collectif et pas de gaz. C'est quand même...
Alors vous, à l'UNIST, comment ça se passe? Comment vous faites pour rassurer les adhérents et
alors,
puis aussi...
On a Olivier Safar.
Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place?
Il y a des points d'information d'abord à tous nos confrères. Pourquoi? Parce qu'il faut leur expliquer les mécanismes, expliquer ce qui a été mis en place par le gouvernement. Quand vous avez un bouclier tarifaire qui est là, expliquer. Quand vous êtes en électricité, expliquer que sur les compteurs bleus, tout va bien avec parce que vous êtes en TRV. Expliquer que ceux qui sont partis chez des fournisseurs alternatifs et qui sont sur l'électricité au prix spot du marché, qui peuvent revenir chez EDF, même si EDF ne veut pas qu'on le dise. Mais je le dis quand même, c'est possible, vous avez le droit de revenir chez EDF sur un compteur bleu et vous allez retrouver votre prix de TRV avec l'augmentation au 1er février de 15%. Ça, il faut informer, expliquer à tous nos confrères pour qu'eux l'expliquent à leurs clients, qu'ils soient copropriétaires, propriétaires ou locataires. Et donc, bien évidemment, c'est un accompagnement, ce sont des explications. Quand on a des difficultés en trésorerie dans les copropriétés, c'est d'informer tout de suite le conseil syndical, d'expliquer comment ça marche, d'essayer de renégocier certains contrats ou tout au moins d'éviter les augmentations aussi violentes ou aussi rapides que certains points. Et ça, c'est notre rôle à nous d'être là, de les accompagner, d'expliquer, mais surtout de demander aussi aux fournisseurs de gaz, aux fournisseurs d'électricité, au gouvernement, aux institutions d'intervenir.
Et les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils disent quand vous intervenez comme ça?
Les fournisseurs, en fait, beaucoup sont partenaires chez nous, à l'UNIS, et on a quand même une influence sur eux.
Parce que
ça très bien qu'on représente quelque
bien
chose.
Sûr.
Donc en fait, un adhérent à l'UNIS sait qu'il est aussi protégé par ce biais-là.
D'où l'importance d'adhérer à l'UNIS.
À l'UNIS,
tout à fait.
Et en fait, on n'a pas répondu à la question. Vous avez posé la question, comment ça va? Mais ça va très bien. Ça va très très bien. Malgré toutes les difficultés que nous avons tous les jours dans notre métier et eu égard à la conjoncture, on va bien, on est là, on travaille. On est là pour nos adhérents. Oui. On est le premier syndicat des administrateurs de biens, on est le premier syndicat des promoteurs rénovateurs. L'UNIS est présent dans la sphère immobilière.
Et je tiens à vous féliciter en tout cas parce que c'est vrai que vous êtes toujours positif, vous êtes à l'écoute et puis voilà, puis c'est un plaisir aussi de vous recevoir et de voir que vous travaillez dur en tout cas pour tous les professionnels de l'immobilier. Donc merci messieurs en tout cas.
Merci en tout cas.
Merci Bernice.
C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes, rappelez-nous le numéro du stand, vous le savez ou pas du tout?
Nous sommes au centre de tout.
Au centre de tout, voilà, au milieu de toute façon,
au milieu,
vous ne pouvez pas louper.
Voilà, il y a l'UNIS, on est en grand, on est là. On est présent et on accueille effectivement tous les copropriétaires, mais tous les confrères et tous les partenaires entreprises qui sont présents sur le stand.
Voilà, et bien on passera cet après-midi avec grand plaisir.
Et bien merci.
Merci beaucoup.
Merci. Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Le Salon de la copropriété, de l'habitat durable et connecté, les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Axéo, GERCOP, Drieux-Combalusier, DK Elevator et l'ANGC sur Radio Immo.